Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On fait le robot.
3, 4, c'est parti!
Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez Leçon d'après. Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Petrouchka et vous écoutez Leçon d'après de l'été. Je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément, bonjour.
Salut, salut.
Ça va?
Très très bien.
Particulièrement aujourd'hui, puisque vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui est un épisode spécial, on fait les versus. Et les versus, c'est des formats qu'on a décidé de faire cet été pour élire les meilleurs morceaux, enfin le meilleur morceau d'ailleurs,
le
meilleur morceau, le seul, l'unique, d'un artiste extrêmement populaire qu'on ramènerait pas d'habitude dans le son d'après parce que bon bah voilà, c'est pas des artistes qu'on vous ferait vraiment découvrir. Et aujourd'hui, eh ben Clément est forcément ravi puisqu'on va parler de Daft Punk.
Exactement.
Alors, comme la semaine dernière avec Aya Nakamura, c'est à vous de voter à la fin de l'épisode pour le meilleur morceau entre celui que Clément aura choisi ou le mien. Les consignes de vote sont simples, vous allez sur Twitter, Instagram, dans le commentaire du post ou alors en story, ou sur TikTok dans les commentaires de la vidéo TikTok, ou alors sur Spotify dans le sondage, voilà, je vais
exactement
y arriver. Et vous votez, voilà, pour votre morceau préféré, soit celui de Clément, soit le mien. Et on vous donnera les résultats dimanche, le 23 juillet. Comme ça, on va déterminer qui de Clément ou moi marque un point. Car à la fin de l'été, il n'en restera qu'un qui gagnera les versus de l'été. Et on est compète cet été-là.
On a vraiment envie de tout donner. On compte sur vous, du coup, pour nous départager.
De ouf. Avant de commencer cet épisode, comme toujours, vous retrouverez les morceaux qu'on va passer ici dans la playlist du son d'après, qui est dispo sur Deezer, YouTube, Apple Music et Spotify. On va citer plein de noms d'artistes, de noms d'albums, etc., que vous retrouvez dans les notes du podcast bien rangées. Et puis, si vous nous écoutez sur les applications de podcast, comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict ou autres, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous avez les nouveaux épisodes dès qu'ils sortent dans votre application. Et si ça vous plaît, vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires sur les différentes applis, donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux, particulièrement cet été bien sûr, Instagram, Twitter et TikTok @leçondapres pour voter pour le meilleur morceau. Et aujourd'hui, on va définir quel est le meilleur morceau de Daft Punk. Mais avant ça, Clément, j'ai besoin que tu nous présentes un peu ce groupe que
petite
personne connaît.
Petite présentation de Daft Punk, même si je vais pas être exhaustif. Daft Punk, c'est qui? C'est Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omem Cristo. Bravo mon gars, franchement, ça c'est un blaze, vraiment.
Ça
pèse. L'histoire de Daft Punk, elle commence en 1986 parce que c'est la date où ils se rencontrent. En l'occurrence, ils sont à ce moment-là au lycée. Quelques années plus tard, là à ce moment-là on est en 92, ils décident de monter leur premier groupe de rock ensemble qui s'appelle Darlin, avec notamment à l'époque Laurent Brankowitz qui deviendra plus tard le guitariste de Phoenix. Déjà, on traîne avec des gens dans un petit milieu. Oui, bah, les mecs à franges, quoi.
Ils sont pas de Versailles, les gars de Phoenix.
Mais je pense que ça
traîne ensemble quand même.
Ouais, voilà, ça traîne ensemble.
Il y a deux Omem Cristo, attends. Ça pèse.
Je pense que ça pèse direct. Et du coup, à l'époque, en 92, ils sortent un premier maxi sur un beau label anglais, mais le morceau est pas très bien accueilli par la presse musicale anglaise. L'une d'elles les traitant même de Daft Punk, de punk débile en français. Autant vous dire qu'à l'époque, du coup, ça les déchauffe un peu. Et je pense qu'il y a un peu, a priori, il y a un peu une petite orgueil qui parle. Et ils font galérer leur maison de disques par la suite en mode « Oui, oui, il y a des morceaux qui vont arriver, mais en gros, il
n'y
a rien qui arrive.
Okay. »
Et cette critique et ce nom, Daft Punk, c'est un nom qu'ils vont réutiliser quelques années plus tard avec la sortie de leur premier morceau de musique électronique. Parce que voilà. À ce moment-là, ils sont en pleine découverte de cette musique underground qui commence à un peu apparaître à Paris.
Qui a déjà pris le monde, quoi, mais qui arrive à Paris.
Exactement. Et il raconte notamment une scène où il découvre cette musique-là, je crois, sur le toit de Beaubourg, une espèce de soirée, et ils sont totalement fascinés par l'effet de la foule. Mmh. Ils se mettent, du coup, à potasser cette musique-là, et ils décident de prendre leur nom, Daft Punk. Et après, en vrai, la courbe, elle est relativement tout droite. Hein. C'est oui. vraiment un succès immédiat et qui va globalement monter jusque ne faire que grossir. À quelques exceptions près. Daft Punk, c'est pratiquement 30 ans de carrière, c'est 4 albums studio, une bande originale de film, 2 albums live incroyables, des clips réalisés par Michel Gondry, Spike Jonze, 2 longs métrages dont un en animation, c'est aussi 7 Grammy Awards, bref, l'un des groupes français les plus écoutés et les plus influents du monde. Mesdames et messieurs.
Bah ouais.
Évidemment. Je vais pas plus creuser leur histoire parce que vraiment les détails oui. ça pourrait prendre 3 heures le podcast.
C'est clair.
Donc par contre, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande fortement le documentaire Daft Punk Unchained sorti en 2015, réalisé par Hervé Martin Delpierre, c'est disponible en DVD Blu-ray et aussi en pirate sur YouTube.
Je l'ai dit tout bas.
Voilà, je pense qu'on va moi je m'arrête là pour
Très
la
bien.
Présentation, c'est simple, efficace.
Efficace.
Je te propose Louise de nous parler de ton choix.
Oui, j'ai Qu'est-ce la dure tâche de commencer cet épisode en présentant d'ores et déjà le meilleur titre de Daft Punk. Alors, je suis sûre de moi. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit?
Ah oui, t'es sûre de toi carrément.
Ah oui, j'ai écrit ça, j'ai écrit, je suis sûre de moi. Bon bah ok, bah on va assumer ce que j'ai écrit, je suis sûre de moi. Et pourtant, vous le savez peut-être, contrairement à Clément ici présent, je ne suis pas une aficionada de Daft Punk. Genre, vraiment pas du tout en fait. J'ai pas spécialement d'attachement particulier à leur musique, alors justement j'ai pu me détacher de la nostalgie, des sentiments, des émotions personnelles pour m'attaquer à l'écoute totale de leur discographie et choisir le seul et l'unique meilleur morceau de Daft Punk. Tâche ardue s'il en est, car entre Get Lucky et Robot Rock, au premier abord, quelques univers musicaux d'écart. J'ai bien dit au premier abord, car Robot Rock est un morceau qui a été samplé d'un titre de Breakwater, qui est un groupe de funk américain des années 70.
Elle a bien fait cette voix, hein.
Oui, je l'avais celle-là avant même de faire cette chronique. Et en fait, justement, c'est l'angle que j'ai choisi d'aborder en tant que juge impartial, cam innocente de femme de poigne, finalement. Comment choisir le meilleur morceau de Daft Punk ?
C'est génial. Si vous saviez comment... En fait, j'ai tellement fait monter la sauce en fait, sur cette idée de battle pendant tout l'été qu'elle arrive, mais tellement plus préparée que moi, avec des arguments. Ah là là, j'ai l'impression d'être dans une cour d'assises.
Donc, pardon, comment choisir le meilleur morceau de Daft Punk ? Eh bien, en partant de 2 points importants. Le premier étant... Pardon, j'ai trop envie de rire.
Bon, ça, franchement, ces épisodes servent à rigoler.
Ah, oui. Ouais. Le premier étant donc, écoutez mon cœur, qu'est-ce qui, dès le premier abord, me parle et me plaît ? Le deuxième étant une vision un peu plus globale de leur discographie et qu'est-ce qui relie intrinsèquement tous leurs titres. J'utilise des mots compliqués pour donner de la constance, mais en vrai, je dis pas que n'importe quoi. Bien sûr, comme la plupart des gens nés dans les années fin 80, début 90, j'ai grandi en entendant Daft Punk à la radio et sur les chaînes de clips. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que je suis DJ et que parfois, mon métier m'amène à surécouter les mêmes morceaux un peu trop souvent. J'ai donc fait une overdose telle que One More Time, malgré que ça soit un de leurs plus grands tubes derrière Get Lucky, qui aurait pu être un choix évident, j'ai décidé de passer mon tour sur la facilité de cette réponse. Je ne saurais défendre ce morceau simplement car il me sort quelque peu par les naseaux à force de l'avoir trop entendu. Mais alors quoi ? Eh bien je vous propose qu'on écoute Too Long, le meilleur morceau de Daft Punk selon moi, et je vous explique après pourquoi. Can you feel it ? Can you feel it? Can you feel it? We'll be right back.
Hey, I need it too. Well, alright. You know you need it. It's good for you. Don't move. You know you need it. Hey, I need it too. Well, alright. You know you need it. It's good for you. Don't move. You know you need it.
Alors, Too Long de Daft Punk. C'est selon moi leur meilleur morceau. Un avis sur cette sélection, Clément ?
Est-ce que je dois être de bonne foi ? Non, mais j'ai envie de dire déjà le principal défaut, déjà que tout est dans le titre. C'est trop long.
D'accord.
C'est beau. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Tellement Daft Punk qu'il n'est pas capable de trouver des contre-arguments.
C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long.
Beaucoup trop long. Alors, de mon côté, je ne suis pas d'accord. Alors, pourquoi déjà est-ce que c'est le meilleur morceau ? On va commencer par là,
ouais,
je ne vais pas m'éparpiller
tout de suite.
Voilà. Déjà parce que j'ai réécouté toute la discographie de Daft Punk et clairement l'album Discovery a tiré son épingle du jeu avec pas moins de 4 ou 5 présélectionnés pour être meilleur titre de Daft Punk.
Pas mal, bah, je comprends, normal.
C'était évident qu'il fallait que je suive l'instinct de mes tympans dans un premier temps. Ce morceau, c'est celui qui clôture Discovery. T'as l'impression qu'il ne s'arrête jamais, en effet.
Mm-hmm.
C'est un morceau de 10 minutes, comme le disait Clément. Et en même temps, il y a un truc qui est évident dans la réussite de ce titre, parce que tu ne t'ennuies jamais.
Ouais, ça c'est vrai.
Et c'est une chose que j'ai parfois un peu tendance à reprocher à Daft Punk. Notamment sur l'album Human After All, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais mm-hmm. qui m'a demandé un peu d'endurance à la réécoute. Et en fait, outre le choix du cœur de « c'est ce morceau qui m'a le plus parlé sur tout cet album », etc., je me suis dit que ce titre reprenait plusieurs codes qui expliquent Daft Punk à plein de niveaux.
Mm-hmm.
D'abord, mention spéciale à la disco-funk, puisque cette musique devenue, entre gros guillemets, ringarde à la fin des années 70, c'est la base d'énormément de samples des productions de Daft Punk. Rien que dans Too Long, on retrouve deux samples issus de titres disco-funk de l'époque. Cette même disco, elle devient soi-disant ringarde à nouveau et elle est réinventée, renouvelée et popularisée par les noirs américains queer, notamment à Détroit et Chicago, sous une nouvelle forme bien plus avant-gardiste, la house. Ça tombe bien, c'est le genre musical sur lequel Daft Punk et bien d'autres vont poser leur French touch. Donc, dans l'idéal, je cherchais un morceau avec un tempo assez rapide, aux alentours de 120 bpm, une basse bien ronde pour me faire bouger les hanches inspirées de la funk. Ça, c'est pas compliqué, on va être honnête, il y en a 75. Mais je me suis dit, il faut un titre qui dure au moins 7 minutes, tu vois. C'est sacrilège, sinon c'est pas de la house, ça ne marche pas.
Okay.
Et surtout, il fallait des paroles plus ou moins répétitives, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans cet épisode.
Mm-hmm.
Et une voix, et qui d'autre que celle de Roman Thoney, aussi chanteur sur One More Time. Finalement, j'ai un peu choisi la phase B de One More Time.
C'est pas faux, c'est une manière de voir les choses.
Que je ne peux plus blairer, donc du coup, je me suis dit, autant aller chercher un autre morceau qui me parle.
C'est parce que probablement, ça, t'as beaucoup moins entendu Too Long dans ta vie que
ah bah, c'est
que
sûr. One More Time. Ah oui, c'est sûr. Je l'ai beaucoup moins écouté, je l'ai beaucoup moins joué, beaucoup moins request. Enfin, tu vois, il y a plein d'éléments qui jouent aussi en défaveur de One More Time. En tout cas, pour moi, ce titre va chercher autant du côté de leurs références, des musiques qui les inspirent, et c'est une sorte de préquel, je trouve, qui vont explorer bien plus tard en détail dans un Random Access Memories aux côtés de Nile Rodgers, puisqu'ils vont retourner aux bases de la disco-funk. Et dans les codes de référence que j'aime profondément en house classique, c'est souvent des morceaux avec des vocaux assez prominents. Je pense notamment à Promised Land de Joe Smooth ou Move Your Body de Marshall Jefferson, qui sont des gros classiques de house de l'époque. Et du côté de la French Touch, mes morceaux préférés, c'est souvent des titres à voix aussi. Ça va de Lady de Mojo à Lucky Star de Superfunk, en passant forcément par Music Sounds Better With You de Stardust,
ouais, ça, c'est
coproduit Thomas Bangalter, voilà,
exactement.
Au hasard. J'ai donc basé mon choix sur tout ce qui parle à mon âme musicale et sur une vision un peu complète de leur discographie en me disant, si tu connais pas, tu sais d'emblée ce qui les inspire et ce qui les démarque à la fois dans leur manière de produire cette musique-là.
Mmh.
Voilà, c'était un peu mon petit exposé sur Too Long de Daft Punk, pourquoi c'est le meilleur morceau. À vous les studios.
Écoute, non mais ça se défend bien.
Wow.
Non mais t'as raison, moi ce qui m'impressionne là, en réécoutant le morceau, c'est cette capacité justement à ne jamais s'ennuyer.
Ah ouais, franchement, je trouve que ça
sur
c'est
un morceau de 10 minutes, ouais. C'est quand même c'est, ils sont pas beaucoup à pouvoir faire ça. Quoi.
Exactement. Je trouve que vraiment ce titre-là, il passe par plein de phases et il a des côtés vraiment plus électroniques, des côtés, enfin genre vraiment les moments où Roman Tony, juste il est en train de chanter en mode ok, on est tous là pour le coup, musique de stade, on est tous en chœur, allez.
Ouais,
on
ouais, c'est ça, mais tu vois que ça soit la voix, que ça soit en fait tous les différents éléments,
ouais.
De temps en temps isolés, de temps en temps tous ensemble.
Quand la basse elle débarque.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est d'une. Je sais pas, il y a une maîtrise, moi vraiment. Bah ça va, c'est bien, ça va me faire la transition, ouais. Ça va me faire la transition. Moi je vous cache pas que je suis embêté. Moi je suis embêté parce que vraiment réécouter là toute cette discographie m'a fait déjà éprouver beaucoup de nostalgie. Mm-hmm. Je vais être honnête, à chaque fois que là et puis tu vois on écoutait le morceau tout long, je dis mais waouh, ça a vraiment été fait quoi. Tu vois il y a quelqu'un qui a fait de la musique. Et dans quel état tu te sens quand t'as composé un album comme Discovery ouais. Enfin, tu vois il y a une sorte d'accomplissement total qui est assez fou. Moi Daft Punk, je l'ai dit, c'est un gros morceau de la musique. Je vous ai parlé en intro de chiffres et de choses finalement publiquement connues. Mais pour sortir du général et revenir au particulier, à savoir mon rapport à la musique de Daft Punk, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis incapable de savoir quand est-ce que j'ai découvert Daft Punk. J'ai l'impression en fait qu'ils ont toujours été là dans ma vie.
Dans ta vie.
Je vous racontais déjà dans l'épisode 9 de ce podcast tout un tas d'anecdotes qui ont émaillé un peu mon parcours d'auditeur quand je vous parlais de Thomas Bangalter. J'ai toujours eu un rapport passionné à leur musique, vraiment au premier degré. C'est-à-dire que chaque découverte était vraiment vécue intensément à base d'écoutes multiples et en boucle, en boucle, en boucle, à base de débats passionnés. Enfin, c'est vraiment... c'est certainement les artistes pour lesquels j'ai ressenti le plus de respect et d'amour viscéral. Cette sensation vraiment qui vient des tripes et qui te met en joie quand t'écoutes leur musique. Donc maintenant...
Il va faire jouer les violons, je vous préviens. je le vois venir.
Donc maintenant que ça c'est dit, comment choisir? Voilà. Là, j'arrive dans un moment fébrile. Parce que Daft Punk, c'est un groupe, tu l'as dit, qui n'a cessé de renouveler sa musique, qui t'a déstabilisé à chaque sortie d'album. Et puis, on est en présence d'un groupe avec de tels tubes planétaires que ça paraîtrait un peu étrange d'aller choisir un morceau plus obscur, plus niché. Et pourtant, autant vous dire que la tentation était forte.
Oui, il y en a
notamment.
Il y en a beaucoup des morceaux plus obscurs et plus nichés quand t'es Daft Punk.
Bah, à différents niveaux. Tu parlais de One More Time, tu parlais de Get Lucky. Évidemment que, enfin, tu vois,
oui.
On est dans une autre sphère.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Puis, encore une fois, on parle d'un groupe monde. C'est pas juste tu vois, à l'échelle d'un pays, là on parle vraiment à l'échelle du monde entier. Donc quand t'as un morceau comme One More Time ou Get Lucky fonctionne, tu pourras mettre n'importe qui voudra essayer de débattre de c'est un bon morceau ou c'est pas un bon morceau. Quand tous ces gens-là s'ambiancent dessus, c'est le débat il est vite réglé. Quoi. Mais j'avoue que même la tentation était forte hein, parce que on va vous dévoiler aussi un petit peu les coulisses. Louise. Étant un tout petit peu moins fan de Daft Punk, je lui ai laissé un petit peu la primeur de se dire tiens, quel morceau t'as envie de choisir ? Je m'adapte aussi. L'idée, c'est aussi de pas parler que de Discovery parce que voilà, c'est assez naturellement, le choix pourrait se diriger vers Discovery. Donc j'ai eu la
car c'est là qu'il y a le meilleur morceau, souvenez-vous.
En tout cas, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de morceaux cultes et moi, c'est par là vraiment, je pense que je les ai pris de plein fouet. Mais j'ai eu la tentation voilà, d'aller sur des albums comme Access Random Memories où ils atteignent, je pense, une formule finale dans la maîtrise de la musique et toutes ses composantes. Vraiment avec des vrais instruments où vraiment ils partent sur plein d'autres terrains et en même temps, c'est la perfection quoi. C'est la perfection dans la production, peut-être trop d'ailleurs pour certains. J'ai même eu la tentation de tricher et de prendre un extrait de leur live de 2007.
J'aurais eu tellement d'arguments
pour avoir plusieurs.
Ça aurait été super, j'attendais qu'ils fassent ça.
Ouais, bah, j'avais envie de faire ça pour avoir plusieurs morceaux d'un coup et pas vraiment choisir. Mais non, 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 je me suis dit, allez Clément, assume et choisis un morceau. Et donc j'ai décidé de revenir à la base, à la source, avec leur premier gros single, extrait de l'album Homework. On va écouter tout de suite Around the World. We'll be right back. Venez d'écouter Around the World des Daft Punk, petit morceau sorti à la fin des années 90.
Single.
Voilà, petit single en toute intimité,
oui.
Tout ça, tout ça.
Personne ne le connaît.
J'ai choisi Around the World déjà parce que, en fait, c'est un morceau que je trouve en fait à la frontière déjà de la grosse techno, donc la musique vraiment, musique underground des années 90. Immense spectre que moi, Daft Punk m'a permis d'explorer, hein, après coup. Et ce morceau en est clairement l'un des. Enfin, l'une de mes clés de. Une de mes ouvertures en fait vers ce type de musique-là. Et vers quelque chose aussi d'un peu plus pop, avec ce refrain permanent. Et je trouve qu'il appelle déjà d'une certaine manière ce qui va arriver avec Discovery.
Mm.
Et toute la musique un petit peu plus produit, tout ça. Je trouve que c'est déjà un morceau qui est intéressant dans l'album Homework, parce que je trouve que justement il est un peu à cette frontière-là. Parce qu'il y a des morceaux beaucoup plus durs, je trouve, sur l'album Homework. Est-ce que tu as déjà entendu des machines groover plus que ça? Vraiment. Et là, c'est une musique à base de machines. C'est pas possible de groover plus que ce morceau. Là, on est
d'accord.
À la source de la musique de Daft Punk.
Bah oui, d'accord. Non, mais, oui. Non, mais t'as dit mauvaise foi, donc je vais rien dire, mais d'accord.
On est dans la pureté de. Vraiment. Tu sais, c'est.
Nous sommes dans l'essence de la musique, Jamy.
Non, mais en tout cas, de la musique de Daft Punk, tu vois,
ah,
ça
oui.
Part vraiment de là. C'est-à-dire que cette musique composée...
Je croyais que ça partait de 92.
Dans leur chambre. Daft Punk, je parle pas de Darling. Daft Punk, voilà, tu
ouais,
vois, là, t'as vraiment alors. Une sorte de matrice zéro de ce qu'est Daft Punk.
Mm-hmm.
Et je pense que...
C'est leur tout premier single, ça?
Non, c'est pas le tout premier single. Je crois qu'il y a... Déjà, sur les... L'album sort en 97, je crois que les premiers singles ou maxi qui sortent vraiment sous le nom Daft Punk, ça doit sortir en 94. Donc tu vois, ils préparent leur sortie vraiment sur les 2-3 années qui précèdent la sortie de l'album. Et il y a le morceau Daft Punk qui sort avant. Sauf que Daft Punk n'est pas un espèce de succès immédiat. C'est a priori quand Chemical Brothers s'est mis en fait à intégrer le morceau dans leur DJ set que le morceau a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Et puis il y a eu aussi le clip de Spike Jonze avec le chien. Moment, enfin clip assez culte aussi, qui a joué dans la popularité. Mais on va dire que le premier vrai banger que sort Daft Punk et que je pense le monde se prend, c'est Around the World. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est évidemment cette ligne de basse, la plus emblématique des temps modernes.
Mm-hmm.
Je pense qu'il n'y a pas tellement de débat là-dessus parce que je ne connais pas de moment plus jouissif que par exemple cette reprise de basse, là au milieu du morceau. Je te l'ai annoncé là quand on l'écoutait ensemble, c'est imparable. C'est vraiment, on peut pas mieux faire. C'est de la musique. Ouais, enfin c'est, y a rien de plus efficace. Et tu vas me dire, je t'entends déjà là, que c'est répétitif. Que nenni, ma chère. Que nenni, c'est juste le morceau boucle ultime. Est-ce que tu sais combien de fois? Ils le disent.
Trois mots trop.
Around the World. Est-ce que tu sais?
Trop de fois.
Eh bien, je vais vous le dire. Ils le disent 144 fois dans le morceau. Tout simplement parce que c'est un parcours. C'est une aventure. Il faut au moins... Il faut au moins 144 répétitions pour faire le tour du monde. C'est le minimum.
Ah oui,
tu
bien
vois
sûr.
Voilà. Donc, c'est... Le morceau dure 7 minutes, il pourrait en durer 14, il pourrait en durer 21, il pourrait en durer ce que tu veux. Ce morceau pourrait ne jamais finir, ne jamais avoir de fin. Ça serait pas un problème parce que c'est trop efficace.
Je suis sûr que sur YouTube, il y a Around the World 28 heures.
C'est évident. Parce que vraiment, je le dis, c'est le morceau boucle ultime. À cela, il me fallait, bon, moi dans les arguments, il me fallait forcément, moi j'ai choisi un morceau parce qu'il me fallait une voix de robot. Une voix de robot, c'est quand même quelque chose qui marque les Daft Punk. Moi, c'est l'un des aspects qui m'a particulièrement attaché en fait aux Daft Punk. C'est l'image de ces deux robots et l'émotion qui s'est petit à petit dégagée leur musique. On va pas parler de ce morceau-là, évidemment, mais comment ils ont réussi à humaniser ces deux robots. Et donc, c'était évident qu'il fallait un morceau avec une voix de robot. Je place aussi, allez, pour terminer, mais parce que avec ce morceau, il y a un clip culte. C'est pas de danse robotique. Michel Gondry, merci beaucoup. Tout le monde refait ce geste grâce à ce clip. L'imitation même du robot vient de ce clip. Voilà.
Ah bon ?
Donc, mais oui, évidemment, cette marche saccadée avec les bras des gens comme ça. L'imitation du robot, c'est ce clip. C'est Around the World.
Sur
ce sûr.
T'as,
il n'y a pas de débat. C'est une source. C'est news. Voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Après, pour être tout à fait honnête et revenir avec, tu vois, tout simplement à l'émotion même de ce que ça me fait, vraiment, ce choix était tellement dur que j'en étais à essayer de dénigrer certains morceaux pour être sûr de mon choix. C'était vraiment n'importe quoi. C'était « Non, mais en fait, Run the World, c'est pas si ouf que ça. Ah, c'est trop évident. » Vraiment, ça n'avait pas de sens. Moi, je suis parti là-dessus parce que c'est trop efficace, mais j'aurais pu tout discover. Vraiment, c'était... C'est juste mon argumentaire et juste finalement un long plaidoyer pour dire je savais pas quoi faire
je
de choix,
pas
les gars,
ne
me demandez pas de choisir entre mon père et ma mère, c'est pas possible. Voilà, donc voilà, je ne choisirai pas soit
je
Thomas, soit Guiman.
Aucun robot.
Voilà, c'est moi, je prends toute leur musique et déjà voilà, juste de les évoquer, ça, voilà, y a beaucoup de nostalgie parce que ça y a beaucoup de parcours de vie qui accompagne cette musique là.
Très bien. Bon bah moi forcément je suis pas d'accord. En fait je trouve que Around the World, même si tu vois genre je sens renier le fait que c'est de l'extrême bonne musique et que ça, enfin tu vois, ça a fondé une grosse partie de l'histoire de la musique électronique et notamment française. Je trouve que vraiment, moi je trouve qu'à la quatrième, à 4 minutes 30 t'as compris l'essentiel du morceau, tu vois. Ça fait 7 minutes et les 3 dernières minutes je suis en mode bon.
Je reconnais que Toulong y a une sorte de... Dans la progression qu'ils arrivent à créer, oui, bah,
c'est
les bases, hein, de tout. C'est,
non, bien sûr,
c'était aussi
Après, c'est vraiment juste, vraiment, moi, c'est mon avis, et genre vraiment sans mauvaise foi, je trouve que vraiment Around the World, c'est un peu long, et c'est des trucs que je peux leur reprocher aussi sur d'autres morceaux de Homework, où en fait, tu vois, genre tu disais que t'avais hésité à ramener le live 2007, là.
Ouais.
Et en fait, je trouve que ce qui est fort dans le live 2007, c'est que ils prennent tous les bouts qui sont incroyablement bien produits
et
qu'ils les assemblent en même temps et que du coup t'as tel morceau qui va s'ajouter à un autre
pour
et
moi,
tout
c'est,
machin,
oui,
et
oui. C'est vraiment une sorte de forme qui se
et en fait pour moi
s'assemble.
C'est là que ça prend vraiment son sens et du coup avoir Around the World tout seul comme ça pendant 7 minutes je suis en mode
après je pense qu'il faut juste avoir aussi conscience et c'est là où on est dans une autre période de la musique et que là l'album sort en 97 c'est de la techno en fait hein. C'est de la techno
après,
donc c'est la musique qui est faite pour les rêves, en mode je danse, tu vois, un peu défoncé pendant des heures.
Ça c'est de la techno, tu trouves ? Moi je suis pas sûr. Hein.
Alors j'ai peut-être pas les termes totalement adéquats, mais
parce
en fait c'est de la musique qui est faite pour être jouée dans les clubs.
Bien sûr, mais en fait justement la musique qui est jouée dans les clubs, elle est pas jouée pendant 7 minutes, elle est mélangée avec d'autres trucs.
Dans les soirées, pas dans ces soirées-là, pas dans ces soirées à cette époque-là, c'est des longs tunnels de musique répétitive. Et on n'en est pas encore à la même approche musicale.
Je pense que si.
Non, bah tu vraiment écoutes juste t'écoutes le E-Live 97, du coup, qui est vraiment extrait de leur live à l'époque. C'est des tunnels. C'est des tunnels. C'est pas, c'est vraiment un autre type de conception. Je pense même des soirées à cette époque-là. C'est pas. Donc je suis pas étonné que c'est effectivement que le morceau fasse 7 minutes et que ça puisse paraître long en termes de single. D'ailleurs en vrai le clip il dure 4 minutes et il est plus, je pense qu'il il est beaucoup plus conditionné pour être une sorte de...
Un des arguments que j'ai c'est qu'en fait il y a des morceaux de house qui durent 7 minutes avec lesquels j'ai aucun problème, tu vois.
C'est une autre période, c'est... Là on est vraiment en 97.
Non, moi je te parle de morceaux de house dont les morceaux de house que je citais tout à l'heure ils sont sortis fin 80 début 90, tu vois. C'est des morceaux de house qui... Enfin, et il y a des morceaux de house où il y a des trucs répétitifs et tout. Moi, je trouve que juste, enfin voilà, genre c'est mon avis sur Around the World et de manière générale, tu vois, c'est sur Daft Punk. Je disais au début, je suis pas une aficionada de
ouais,
ouf.
Bien sûr, bien sûr.
Et en fait, je pense que ça fait partie des trucs pour lesquels je suis pas une aficionada. Déjà, la voix des robots, moi, je trouve ça marrant 5 minutes. Mais au bout d'un moment, vraiment, ça me sort les yeux de la tête, quoi. Mm-hmm. Parce que vraiment, j'ai essayé de réécouter Human After All, par exemple.
Oui.
Et
oui.
Franchement, au bout d'un moment, les voix robotiques au vocodeur, là, j'étais là, le troisième titre, t'as plus de crâne, tu vois, genre.
Human After All, j'entends que pour
et
un...
Coup, et juste, du coup, ça peut me faire un peu cet effet sur Around the World, où, bah ouais, c'est ça, ce que je disais, à 4 minutes 30, t'es un peu en mode, bon, on a compris Around the World, mais du coup, est-ce qu'on on peut pas avoir un nouveau souffle au morceau, tu vois. Et je trouve que... Bah vraiment, je suis désolée.
Oh non, mais après, c'est ton avis. Hein, après,
non, mais c'est surtout qu'en plus, vraiment, genre, bon, je sais, c'est Daft Punk, tu vois. Genre, il y a des gens qui vont dire qu'est-ce qu'elle a à dire quelque chose sur Daft Punk alors qu'elle a jamais rien produit. Juste, voilà, c'est mon avis d'auditrice. Que je trouve qu'il y a un truc qui manque un peu de renouvellement. Voilà. Sans pour entendre dire que c'est un mauvais morceau, bien sûr. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts par l'intégralité des fans de Daft Punk. Mais
non.
Je vous aime bien quand même. Hein.
Non, 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 mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est évident que de toute manière, dans la suite de leur carrière, ils sont allés vers. Plus de variété, plus de, enfin,
ouais,
un autre travail de la
aussi,
musique.
Oui,
ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense que il y a quand même un. Je retire pas l'idée qu'il y a un mindset à ce moment-là dans la création de l'album et dans le type aussi de, même tout simplement de soirée dans lesquelles ils étaient, où on n'est pas dans une approche de tube. Et
mais
de,
je parle pas de tube, moi. Je parle juste de mélanger les morceaux ensemble. Et mélanger les morceaux ensemble, c'est justement parce qu'ils font 7 minutes que tu peux mélanger 3 minutes et 3 minutes d'un autre morceau pour en créer un autre ensemble. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire, je suis pas d'accord, mais par contre, là-dessus où je te rejoins ce que tu disais sur le live, E-Live 2007, c'est juste, je pense que c'est l'apothéose vraiment de
ouais.
Des trois albums
c'est ça,
sortis
c'est
par
que,
avant.
C'est que du coup,
tu
ça,
vois que là, tous.
Ça va ensemble, quoi.
Ouais,
ouais,
voilà,
bien
tout,
sûr, c'est le combo.
Tout s'aligne,
de...
tout s'aligne et tu fais waouh, c'est trop fort. Et c'est pour ça que franchement, j'ai vraiment hésité à ça parce que je trouve que pour moi, il y a une sorte de. De point culminant dans en tout cas l'approche des trois albums et notamment Human After All là dedans il est incroyable enfin les morceaux l'apport des morceaux d'Human After All dans le live c'est trop fort. Bon, on a pas mal discuté.
Je pense on est pas mal.
Ouais.
Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. T'as encore des
j'ai envie d'avoir des petites mentions spéciales quand même de morceaux entre guillemets sous-cotés. C'est juste le plaisir en fait de pouvoir citer comme d'autres morceaux. J'ai décidé d'en prendre un par
album
dont je n'ai pas parlé. Du coup, je vous ai parlé de Homework. Moi, sur l'album Discoveries, j'ai un attachement particulier, je vous l'avais dit à l'épisode 9, pour le morceau Super Heroes, que je trouve un morceau vraiment trop sous-coté et moi qui m'a rendu fou à l'époque. Et il reste éternellement dans mon cœur. Il rappelle trop de bons souvenirs. Sur Human After All, c'est le morceau d'entrée, en vrai, Human After All, que. Je trouve c'est intéressant de réécouter quand même cet album au regard de l'influence aussi qu'il a eu sur toute la nouvelle scène électronique française, justice en tête. Et je trouve vraiment en plus Human After All, je trouve hyper efficace. J'aime de manière générale bien les intros de Daft Punk sur leurs albums et je trouve que celle-là, elle est très forte. Et sur Random Access Memories, j'ai envie de parler de Beyond parce que pour être tout à fait honnête, j'ai hésité avec ce morceau en fait à la ramener parce que j'ai l'impression en fait que... qui a aussi, voilà, une sorte d'aboutissement dans leur musique, où il y avait aussi la voix des robots. Enfin, il y avait plein d'éléments comme ça que je trouvais intéressants, où il y avait aussi l'orchestral qui les ont incorporés en fait, de toute la partie musique de film qu'ils avaient fait pour Tron. Mm-hmm. Donc, pendant un temps, j'ai bien hésité avec ce morceau-là, et que j'adore en plus, il se dégage une vraie émotion. Et je crois sur tous les albums de Daft Punk, j'aime énormément les morceaux plus dans l'émotion. « Something About Us »,
ouais,
Make
moi
love,
ça faisait
emotion.
Partie de mes
voilà ça faisait partie des pistes aussi que j'hésitais à explorer mais bon il fallait quand même c'est Daft Punk c'est quand même tellement une bastos donc voilà
très bien moi si j'ai un morceau que j'ai redécouvert là en réécoutant les discographies c'est Teachers sur Homework justement
tout à fait
où j'étais en mode genre trop marrant et il y a des trucs que j'ai la ref des trucs que j'ai pas la ref ça me donne envie d'aller découvrir des nouveaux trucs du coup.
Ouais, ça, oui, en fait, pour expliquer, c'est un morceau du coup où ils citent
toutes leurs influences,
tous leurs mentors entre guillemets et influences à l'époque. C'est
beaucoup de beaux noms de la musique.
Beaucoup de rêves, voilà, c'est ça. C'est fat.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce débat enflammé sur Daft Punk. Quel est le meilleur morceau entre Around the World et Too Long? Ça va être à vous de décider, chers auditeurs.
C'est un beau combat, ça.
Vous pouvez aller donc sur Twitter, Instagram, TikTok, Spotify pour voter. Vous avez jusqu'à dimanche, enfin jusqu'à samedi, parce qu'on on révélera qui gagne ce combat dimanche.
Dimanche, tout à fait.
Avant de renchaîner sur une nouvelle semaine, car oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau versus. On a hâte. Un nouveau round. Donc Clément,
on se dit à la semaine prochaine.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.